parti.
Hop, je lance ici, je lance là et j'envoie la sauce. Attention.
Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policière, Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy.
Voilà, alors Hervé l'assassin habite au 21, c'est bien connu, et donc bienvenue, ouais, ouais. Bienvenue dans ce Variation en noir numéro 21 septembre.
Ah, voilà. Ça, alors là, c'est une belle référence. Ouais, okay.
Septembre 2015, donc troisième saison qui débute et en oui. Perspective une nouvelle année radio pour notre rendez-vous mensuel autour du roman noir et des littératures policières. Alors au sommaire de ce Variation en noir numéro 21, retour sur une collection qui semble avoir trouvé sa place dans les rayons polars des librairies, Néo-Noir chez Gallmeister. Nous reviendrons sur un
non, des... Non, chez Flammarion plutôt. Néo-Noir, oui.
Je comprends ta remarque, Hervé, mais nous commencerons par Ombre Noire, effectivement. Mais avant cela, donc, Néo-Noir chez Gallmeister, nous reviendrons sur un des titres sortis avant l'été, L'Enfer de Church Street de Jack Hinkson. Et pour rester du côté des États-Unis, nous irons faire un tour du côté du Kentucky avec le roman de Jack Smiller, Les Infâmes, une sacrée surprise de cette rentrée, une surprise que l'on doit aux éditions, Hervé.
Aux éditions Ombre Noire qui sont abritées par Flammarion.
Voilà. Mais avant
ça. Pour me rattraper, je dirais quand même un truc. Après une bêtise, je vais dire un truc un tout petit peu plus malin. C'est que ce qui est super aussi avec ces deux romans américains, c'est que ces deux nouveaux auteurs, deux premiers romans qui frappent fort. Voilà.
Alors on va y revenir. Mais justement avant cela, Hervé, quelques nouvelles de 813, l'AG annuel approche, ainsi donc que la remise des trophées 2015.
Eh bien, oui, la remise, l'AG suivie de la remise des trophées aura lieu au Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon le dimanche 4 octobre. Et bien évidemment... on en reparlera, enfin je
bien
pense,
sûr, bien
si,
sûr.
Si tu le permets.
Bien sûr.
Et voilà, donc le suspense est encore total sur les lauréats du roman français, étranger, du meilleur travail critique et de la bande dessinée de l'année.
Oui, 813 hein, qui sera présent sur de nombreux festivals, rendez-vous polar, hein, c'est dans les semaines qui viennent. Je pense que les...
Oui, on est à partir de demain après-midi, on est à Lille-sur-Tarn à l'invitation de Claude Mesplède pour une première édition. La semaine d'après, on est à Villeneuve-les-Avignon pour un festival qui s'est maintenant inscrit dans le paysage. Après, on sera à Saillant dans la Drôme, et puis à Lamballe, et puis à Vienne. Il y a aussi ce week-end, en même temps que Lille-sur-Tarn, d'autres 813 seront à Polar en cabane, qui est à Bordeaux. Enfin voilà, il y a toute une série de rendez-vous à venir. Là, C'est une voilà la saison polar a commencé fort là.
Oui. Alors bon, nos auditrices, nos auditeurs hein, de l'Arrajois peuvent considérer que ces rendez-vous hein, se trouvent assez loin de chez nous. C'est vrai, mais nous avons aussi des auditrices, des auditeurs sur Internet hein, et donc ils retrouveront, oui, je pense, tous ces rendez-vous de 813 sur le blog de 813, Hervé.
Oui, oui, ils sont régulièrement annoncés sur le blog de 813, et puis même si c'est encore loin pour ces auditeurs et ces auditrices, on peut déjà prendre date. Bien évidemment, 813 sera là le 1er mai à Arras, au salon du livre d'expression populaire.
On en reparlera aussi, Hervé.
Voilà.
Donc, je te propose honneur aux dames, hein, oui, d'autant qu'elles ne sont pas nombreuses quand même, finalement. J'y pensais en refermant ce livre hein, de Jack Miller, Les Infâmes. Elles ne sont pas nombreuses dans le roman noir et aussi dans le nouveau roman noir américain, hein, puisque bon, on peut inscrire ce roman dans ce courant.
Oui.
Et
oui.
Donc, elles
ne sont pas nombreuses. Et alors, les femmes ont été assez nombreuses, y compris dans le polar américain, sous une forme un peu particulière, avec beaucoup de talent. Hein, et c'était d'ailleurs, elles étaient beaucoup abritées dans une annexe de la série noire chez Gallimard, qui était la série Blême. Mais elles étaient souvent spécialisées, si on peut dire, dans ce qu'on appellerait le roman de suspense.
Voilà.
Mais voilà, je pense à Margaret Millar, Mildred Davis, Hilda Lawrence, des femmes comme ça, qui faisaient voilà des superbes livres. Mais là, on est effectivement, elles sont plus rares, comme tu dis, dans le roman noir américain et dans le roman noir thriller au beau sens du terme.
Alors donc, ce roman ça s'appelle Les Infâmes. Je suis allé voir dans le dictionnaire, Hervé. Donc, infâme qui cause du dégât par sa bassesse, synonyme atroce, horrible. La deuxième définition, qui cause de la répugnance par sa laideur, par sa saleté. Hein, synonyme ignoble, malpropre, sale. Alors on peut dire que dans ce roman, effectivement, il y a beaucoup de bassesse, de laideur, de saleté.
Bah oui, on peut tout à fait dire ça. Il va y avoir une espèce de chemin de croix de l'héroïne au milieu de toute une saleté que peut traîner l'Amérique, et pas que l'Amérique évidemment. Mais voilà, c'est peut-être, on peut commencer par dire quelques mots de cette héroïne.
Oui, resitue.
Voilà, puisque on va puisque le livre s'ouvre sur je m'appelle Freedom Oliver, j'ai tué ma fille. Et puis, cette Freedom Oliver, on peut pas tout déflorer, mais on commence, si je me souviens bien, on est dans une espèce de bourgade de l'Oregon. Elle est serveuse dans un bar à bikers, avec une patronne lesbienne, une meilleure amie qui est une prostituée noire. Et souvent dans le bistrot, ça chauffe un peu. Elle a parfois à donner un peu du muscle contre des soifards, des dragueurs, enfin ce qu'on veut, quoi. Et puis on va vite découvrir, elle a des fractures personnelles. En fait, on découvre que depuis 18 ans, elle a été témoin protégée par le FBI, elle a changé de nom, elle a changé de vie, elle a eu une fille, enfin, qu'elle n'a jamais revue, etc. Et ce qui est... Bon, on peut pas raconter tout ça, parce que, par ailleurs, Les Infâmes, c'est un livre extrêmement foisonnant, avec des personnages qui s'entrecroisent, mais sans que le récit soit particulièrement compliqué. Hein, c'est pas... Voilà, mais puisque on va aussi suivre des flics du FBI, on va suivre un avocat new-yorkais, un jeune avocat new-yorkais qui en fait est son fils. On va suivre une famille de dégénérés qui ont aussi à voir avec son histoire à elle, bien évidemment. Ouais. Des flics corrompus, un prédicateur, une secte.
Voilà une secte.
Voilà une secte dont on va peut-être pouvoir reparler, mm-hmm. qui est aussi mêlée à... qui est suivi de près par des gars de l'ATF, parce que l'American Tobacco Firearms, c'est-à-dire le FBI dans ces matières-là, si l'on peut dire, et parce qu'il y a du trafic d'armes, ils se préparent à une sorte d'assaut ultime et apocalyptique, enfin bon bref. Et ce qui est d'abord très très fort, c'est ce personnage de, à mon avis, hein, c'est ce personnage de Freedom Oliver. J'aime bien parce que dès les premières pages, elle dit... traitez-moi de ce que vous voulez, meurtrière, tueuse de flics, fugitive, ivrogne. Vous croyez que ça me fait encore quelque chose ? À cet instant, le froid glacial me comprime les poumons comme si j'allais vomir, mais non. Toujours hors d'haleine, je me sers de ma robe crasseuse pour essuyer le sang sur mon visage. Je ne sais même pas si c'est le mien. J'ai suffisamment d'adrénaline dans les veines pour ne pas le sentir de toute façon. Et ça, l'adrénaline... le livre, il en est gorgé, sur ses 350 pages, depuis l'Oregon jusqu'au Kentucky où va se rendre Freedom Oliver. C'est un livre qui fonce avec plein de choses qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. C'est un jeu aussi avec les stéréotypes du roman noir, du polar, parce que effectivement, bah, comme on l'a dit, on croise tous ces personnages, évidemment des psychopathes, des infâmes, il y en a un peu partout, parce que il y a à la fois un flic plutôt gentil qui a un œil un peu amouraché sur elle, sur Freedom Oliver, et puis par ailleurs, il y a aussi des flics tout à fait corrompus, il y en a qui font leur business, il y a cette secte, il y a des tueurs, c'est aussi cette Amérique un peu redneck, on a vraiment toute cette galerie, et ce que je trouve assez remarquable dans un premier roman, avec parfois peut-être les tout petits que peut avoir un premier roman, mais oui. C'est que elle arrive, Jax Miller, à jouer avec tous ces stéréotypes, mais sans qu'on tombe justement dans les travers possibles. Ça fonce vraiment, et c'est je me suis dit que ça ferait mais au bon sens du terme, au sens où il y a les séries HBO et d'autres, ça ferait une excellente série en quelques épisodes, en fait.
Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Bon, effectivement, même s'il y a une tentation de tout donner hein, dans un premier roman, souvent, donc très très riche, ce roman, tu l'as dit, mais il est construit de main de maître. Hein.
Oui.
Moi je l'ai terminé hier, on a vraiment un mal de chien à le lâcher. C'est
complètement. On complètement. Est complètement. Moi, c'est une lecture d'été, je l'ai pas lâché non plus. Enfin,
on est complètement embarqué là. Avec deux choses sur lesquelles je voulais revenir, Hervé, effectivement, bon, j'ai parlé du Kentucky, c'est ce qui apparaît d'ailleurs, le panneau sur la couverture du livre,
oui.
Mais donc c'est un bouquin qui circule, parce qu'on part de New York quand même, Freedom,
oui, oui.
Elle vit tout d'abord à New York, et donc tu l'as dit, elle doit fuir la ville, fuir la famille, pour des raisons que vous découvrirez dans le livre, on la retrouve donc complètement à l'opposé, enfin de l'autre côté de... Ouais. Du pays, en Oregon, et puis il y a ce retour vers sa quête hein, qui l'amène au Kentucky, un état donc où se trouve la secte religieuse, où elle va devoir essayer de récupérer ses enfants, sa fille.
Oui,
et donc c'est une belle circulation. Et donc et en lien avec ça, c'est une héroïne, une femme qui a vraiment le un profil de comment dire de personnage clé du roman noir. C'est elle bourlingue en moto, elle fait je sais pas combien de milliers de kilomètres en moto, une moto qu'elle a volée. Elle donne du coup de poing. Il y a aussi bien sûr de l'amour, de la sensualité, mais vraiment c'est un personnage personnage de femme qui s'inscrit complètement dans ce nouveau roman, une quête, hein, on peut parler d'une quête, un roman qui traite aussi de la question des enfants adoptés, et je trouve que c'est ça qui est très fort, hein, de la part de Jax Miller.
C'est ça qui est très fort, tu as tout à fait raison, avec le fait qu'en même temps, c'est pas Lara Croft non plus, c'est-à-dire que on la suit à travers justement toute cette quête, j'allais dire presque l'arme au poing, ou en tout cas le poing armé, ça c'est sûr, sur sa moto, sur tout ça, sur le fait qu'elle elle fonce vraiment dans cette quête qui pourrait être l'essentiel, pour rattraper le temps aussi, pour voilà. Et mais en même temps, elle a ses fractures internes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, chez qui quelque part des choses ont été, à une époque des choses ont été brisées, tout ça. Et ça fait un personnage. Ce qu'on aime, c'est que ce n'est pas une victime pour une fois, ce qui a été très souvent quand même quand elle n'était pas une potiche, mais le rôle de la femme dans le roman noir quand même. Et là, c'est que elle fonce vraiment et qu'en même temps, c'est un personnage complexe.
Voilà, oui, avec beaucoup de failles, toujours.
Oui. C'est vraiment, à mon avis, là, une des grandes. Enfin, d'abord, il y a un plaisir de lecture, ça ne m'étonne pas ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un livre qu'on lâche pas. Pour moi, c'est la grande. C'est une grande découverte de la rentrée et ça enfonce tous les thrillers qui sont juste là pour faire frissonner un peu, quoi. Mmh. Et de l'autre côté, c'est cet extraordinaire personnage de femme. Ça, c'est une grande réussite, ça.
Un petit mot, Hervé, sur Ombre Noire, justement, un éditeur, enfin, une collection, donc chez Flammarion, peut-être plus qu'une collection, un éditeur quand même.
Oui, c'est une maison d'édition abritée par Flammarion. C'est une maison d'édition qu'on connaît, notamment
ici à Arras,
pour un auteur français que le prix Ami Lamecker a couronné en 2014, qui est Marin Le Dain. C'était pour L'homme qui a vu l'homme.
Ouais.
Mais voilà, c'est une maison d'édition qui a proposé des auteurs latino-américains, un russe, un égyptien, voilà, qui sans doute se cherchent. Et qui a aussi publié des novellas un peu de Thomas Cook, aide-moi Guy.
Des nouvelles, alors des courts romans, mais j'ai pas tout le catalogue sous les yeux de.
Non, moi non plus.
Mais en tout cas, moi je pense qu'il suffit d'aller sur le site, hein, Ombre Noire.
Oui,
mais c'est vrai que c'est une collection intéressante.
J'ai l'impression quand même que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que parmi une profusion, parce que des romans des polars anglo-saxons et notamment américains, il en sort beaucoup, dirons-nous. Hein, voilà, c'est. Et j'ai l'impression que là, ils ont trouvé une perle là-dedans quand même, hein, parce que ça, c'est vraiment un très fort roman. Oui, j'ai oublié, chez les Français, il y a aussi Michael Mention,
voilà,
qui publie aussi chez eux. Voilà, mais enfin là, réellement, c'est un livre fort, quoi.
Voilà, donc roman Les Infâmes de Jax Miller, traduit de l'anglais, enfin des américains, par Claire-Marie Clévy, aux éditions Ombre Noire.
What good would that do anyway?
c'était Radio PFM, Variation en noir dans Variation. Une petite pause musicale que je voulais faire féminine et rock. Hervé, Sally Ford and the Sound Outside avec un morceau
très
intitulé...
Bien, très bienvenue.
Un morceau intitulé Devil. Donc on reste bien entendu dans le ton.
Devil, le diable.
Exactement, oui.
On est dans le ton.
Tu n'avais pas compris la prononciation. Je sais que je suis pas un des meilleurs.
Non, je voulais juste vérifier parce que mon anglais non plus n'est pas excellent. Tu sais.
Non, mais c'est bien ça. Donc eh bien, on reste en fin de compte avec le deuxième livre hein, dont nous avions envie de vous parler aujourd'hui, un petit peu autour de cette question de la religion qui est très présente, hein, je pense qu'il faut le dire, dans Jax Miller, les Infâmes. Alors là, on rentre en plein dedans avec L'Enfer de Church Street de Jack Hingson, donc chez Néo Noir Gallmeister. Pour situer rapidement, Hervé, donc c'est... C'est un roman qui est écrit en forme de confession, celle d'un jeune homme, Geoffrey Webb, qui est devenu pasteur par un concours de circonstances assez tragique, mais qui a un regard sur la religion assez étonnant. Je le cite, hein, il explique donc voilà, le frère Léonard devint mon modèle et en le regardant travailler, je commençais à comprendre que son boulot était une arnaque écœurante. Le ministère peut être un métier dur, j'en suis sûr. Les prêtres voient les gens dans leurs pires moments et on fait parfois appel à eux pour jouer les médiateurs dans des litiges d'une rare violence et être les témoins des plus affreuses tragédies humaine. On attend d'eux qu'ils apportent la lumière dans les ténèbres les plus obscures, mais c'est exactement la raison pour laquelle la religion, pour l'essentiel, est une escroquerie. En dépit de toute son histoire et de son prestige, de tous les bâtiments construits pour l'honorer et de tout le sang versé pour la diffuser, la religion n'a rien de différent de la lecture des lignes de la main ou de l'interprétation du marc de café. Léonard, l'homme au grand cœur et au large sourire, ne travaillait probablement pas plus de 3 heures par semaine, mais il était payé comme s'il en faisait 50. Il entretenait une femme et 2 enfants adolescents en lisant des histoires de la Bible mercredi soir. Voilà, hein, comme source de motivation pour Geoffrey Webb dans son métier de pasteur. On fait mieux comme conviction, Hervé, pour rentrer...
Ah oui, complètement sur ce terrain-là. C'est un roman qui est particulièrement décapant et qui n'épargne rien par rapport aux illusions et aux illusions corruptrices et criminelles que peuvent abriter ces églises qui sont là pour qui sont des attrapes gogo et qui sont c'est absolument c'est une vision très très radicale, très comment dire, à la fois très noire et pleine d'humour aussi, de
beaucoup d'humour effectivement.
Là voilà, plein d'humour dans un livre d'un autre côté très très noir. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais, parce que tu as tout à fait très bien parlé de ce sujet, effectivement là aussi abordé d'une toute autre manière que Jax Miller, mais qui est essentiel dans ce livre. Mais il y a une chose aussi que je trouve assez fameuse dans ce roman de Jack Hingson, c'est son démarrage et puis son retournement, si on peut dire. Parce que quand on ouvre le livre, on est face à c'est écrit à la première personne par un gars qui est une espèce de un peu un dur à cuire quand même. Qui dit: je travaillais depuis 3 semaines dans une usine de plastique dans le Mississippi lorsque le contremaître, un bouseux à la dentition en décapsuleur du nom de Cyrus Broadway, commit l'erreur de me traiter de connard feignant. Ça donne aussi le ton de l'écriture, comme tu as donné également. Il va, il casse la gueule au contremaître, il prend la tangente, et puis il atterrit dans l'Oklahoma, ce gaillard narrateur, Et là, il conçoit de braquer un type sur un parking. Il évite de braquer des femmes parce qu'il dit que ça cause plein d'ennuis. Voilà. Après, les flics adorent vous traquer et tout, et vous tabasser. Donc, il choisit un gars qui ressemble à rien, un peu un obèse sur le parking du supermarché et tout ça. Et c'est lui qu'il va braquer.
Donc, Geoffrey Webb. Voilà.
Ils partent en voiture et, retournement, lui, il a un flingue, mais le gars conduit, il fonce. Et en fait, on est dans une situation un peu no way, c'est-à-dire que il va, voilà, c'est-à-dire que ok, l'un est armé, mais l'autre a la bagnole en main et fonce à toute allure et dit bah oui, mais moi je peux nous mettre dans le décor. Et alors là, retournement, l'otage obèse, etc., va faire une espèce de deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que il est prêt, ok, il donne l'argent qu'il a sur lui, quelques milliers de dollars à son ravisseur, mais en échange de ça, l'autre va écouter son histoire, et c'est ainsi que ce chapitre, qui est un kidnapping finalement mené tambour battant, mais assez classique, se retourne complètement, et qu'après le livre va être cette espèce de confession dont a besoin
ce pasteur, Geoffrey Webb.
Geoffrey Webb, ce pasteur. Et ça, c'est déjà extrêmement malin. Ce pasteur qui lui dit, et ce qui explique qu'il a un besoin absolument de parler à quelqu'un, je suis une ombre en marche, comme l'a décrit Shakespeare, parce que par ailleurs, c'est un homme cultivé. Et il va décrire ce qu'a été à la fois son ascension aux côtés du révérend, enfin de celui qui dirigeait l'église, et comment lui-même peu à peu a eu une espèce d'irrésistible ascension et dont la chute n'aura été que plus dure. Bon, on peut pas en raconter les détails parce que là aussi ce serait un peu défloré quand même, mais c'est assez prodigieux quand même. Et après, effectivement, toute cette histoire de cette église dont il devient le pasteur aimé dans une bourgade de l'Arkansas, si je ne m'abuse, c'est vraiment très fort. Et cette dernière tentative de rédemption, lui qui est parti en laissant derrière lui cadavre, incendie, enfin bon, et autres malversations, ouais, c'est vraiment un livre là aussi très habilement construit.
Ah mais c'est très fort. Hein. Moi je suis complètement d'accord avec toi. Le début là, le braquage, c'est et le braqueur là, c'est étonnant. D'ailleurs on pense que c'est ce personnage que l'on va suivre et puis en fin de compte,
bien sûr, hein, c'est ça. Ouais, on s'attend pas fort. Du tout à ça. Ouais. C'est ça qui est très fort. Je trouve ça. Alors là.
Et puis donc un Geoffrey Webb qui est vraiment étonnant, qui raconte que alors qu'il est en train de balancer un sacré sermon, il se dit mais comment se fait-il qu'il ne se rende pas compte à quel point tout ça ce sont des conneries, hein, en pensant à ses ouailles qui l'écoutent béatement. Donc c'est vraiment très 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 fort ce roman, à la
oui,
fois par sa construction.
C'est un roman sur l'aliénation, particulièrement c'est un vrai polar, un vrai roman noir, et un roman sur les religions ou autres croyances opium du peuple et sur l'aliénation en général, particulièrement réussi, parce qu'il y a toujours effectivement ce second degré, ce côté un peu ironique, humoristique, enfin c'est vraiment très très... C'est très, très bien.
Un auteur, Hervé, Jack Hingson, donc qui sait de quoi il parle, puisqu'il est fils de prêcheur baptiste.
Oui.
Il est né en 75, et donc l'éditeur nous dit qu'il a commencé à boire à l'âge de 30 ans.
J'avais vu ça aussi, et je trouvais ça également assez drôle, comme quatre lignes pour présenter l'auteur. Bon, il a, en tout cas, on a cette précision biographique, mais en tout cas, il est certain que après un roman comme ça, c'est quelqu'un qui va être attendu, parce
Je pense. Hein. Et qui s'inscrit complètement. Bon, Néo-Noir, on en a déjà parlé. Vraiment, c'est une collection. On en reparlera. Hein. Il y a des livres là, qui viennent de sortir. Je sais que tu en as corrigé un aussi qui doit sortir très prochainement. On en reparlera.
Oui, oui.
Mais qui s'inscrit vraiment dans ce qu'écrit Oliver Gallmeister. Donc, hein, des auteurs prennent la relève. Ils ont en bagage l'héritage d'un siècle de romans noirs qu'ils mixent sans complexe avec Shakespeare et quelques décennies de culture populaire. On est vraiment là-dedans avec Jack Hingson.
Voilà, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que il y a quelque chose, de Jim Thompson chez Jack Hingson pour moi, par exemple. Mais en même temps, et c'est une sacrément belle référence. Mais en même temps, il est évident que c'est aussi, c'est la néo-noir remplit complètement son contrat avec ce genre de livre parce que c'est complètement contemporain. On sent bien que, la tragédie, puisque l'auteur lui-même cite Shakespeare, mais la tragédie est passée par là et en même temps aussi les frères Cohen, Tarantino, Fincher, et puis plein de choses, toute une culture populaire effectivement qui s'est mêlé avec cet aspect où le roman noir qui est né avec ça continue ce travail de critique et de dynamitage d'une respectabilité des fausses valeurs mais de manière extrêmement moderne. Oui.
Donc, nous en reparlerons, hein, bien entendu, de Néo-Noir, parce que le programme est vraiment alléchant. Voilà, c'était Variation en Noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'Association des Amis des Littératures Policières, en particulier avec Hervé Delouche. Et avec Hervé, donc, nous avons parlé aujourd'hui de deux livres que nous conseillons, hein, bien entendu, à toutes les auditrices, tous les auditeurs.
Oh oui, oh oui.
Jax Miller, Les Infâmes aux éditions Ombre Noire, et Jack Hingson, L'Enfer de Church Street. Donc Néo-Noir Gallmeister. Merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission. Rendez-vous donc fin octobre pour de nouvelles explorations en noir. D'ici là, et a priori, hein, nous devrions revenir vers nos contrées hexagonales, Hervé.
Puisque voilà. je pense que la prochaine fois, nous parlerons d'Antonin Varenne et de Patrick Pécheron.
Voilà, d'ici là, Hervé, une très bonne AG 813.
Merci Guy, et puis merci Bernard, et puis à bientôt.
Voilà, et bien bonne lecture à toutes et à tous.